RDL, entre nous, avec Jean-Marc Rachia.
Merci d'être là et d'être avec nous. On est vendredi aujourd'hui, c'est la dernière de la semaine pour Entre nous. Je suis très heureux de vous accueillir, de vous accompagner jusqu'à 14h, jusqu'à 13h. On va parler sommeil aujourd'hui avec notre invité, le docteur Rémi Lombard. Bonjour Rémi.
Bonjour Jean-Marc.
Merci d'être là. De nouveau derrière ce micro, vous étiez déjà venu la saison dernière.
Et merci de m'accueillir à nouveau.
On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Je rappelle que vous êtes spécialiste des troubles du sommeil. Vous êtes praticien au sein de l'unité de sommeil de la clinique de Flandre à Coutquerque-Branche. Et vous êtes même directeur scientifique pour la thématique troubles du sommeil de Charles.co. Qu'est-ce que c'est que ça, Charles.co?
Alors Charles.co, c'est une plateforme de prise en charge de troubles en ligne, et notamment de troubles du sommeil. Et là, au moment de la période de la Covid, beaucoup de personnes se sont plaintes d'insomnie. Mmh. Et nous avions, nous les praticiens, plus la possibilité d'accueillir les patients dans nos cabinets. Mmh. Et donc la plateforme s'est proposée de développer une prise en charge automatisée en ligne pour pouvoir la rendre accessible à tous depuis la Covid, et maintenant ça persiste.
D'accord, très bien. Bon, on aura l'occasion de rappeler l'adresse de ce site. Alors on vous reçoit à l'occasion du passage à l'heure d'hiver, à 3h du matin samedi, il sera à 2h. On va gagner une heure dite de sommeil, mais je ne sais pas si on se rend compte qu'on gagne vraiment une heure de sommeil. On en parlera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et si vous voulez témoigner de vos troubles du sommeil, vous n'hésitez pas non plus à nous appeler au 03 21 38 90 51.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Entre nous aujourd'hui avec le docteur Rémi Lombard, spécialiste du sommeil, à l'occasion du passage à l'heure d'hiver. Alors je rappelle, hein, samedi, entre la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, il sera 2h. Je me le répète à moi-même comme un mantra parce que je me plante une fois sur deux.
Je peux comprendre.
Vous aussi,
comprendre. Ça m'arrive de temps en temps.
Ah, aussi, quand même. Donc à 3h du matin, il sera 2h. Donc on va gagner une heure de sommeil chic alors.
Alors oui, effectivement, sachant que les Français dorment 1h30 de moins qu'il y a 50 ans en moyenne, eh bien ce passage à l'heure d'hiver où on a l'impression de gagner une heure de sommeil est souvent bien mieux toléré que le passage à l'heure d'été.
Ah oui.
Où on a l'impression d'en perdre une. Globalement, l'ensemble de la population va mieux le supporter que l'autre passage, que l'autre changement d'heure. Toutefois, les personnes plus couches tôt, lèvent tôt auront plus de mal à le supporter. Et les enfants ainsi que les personnes âgées ont en général un peu plus de difficultés à tolérer ce changement d'heure.
On n'est pas tous égaux devant ce phénomène.
On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même horloge biologique. Hein. On a des couches tôt lève tôt, des couches tard lève tard. Et les 80% de la population sont sans préférence, on va dire, des heures plus conventionnelles. Mm-hmm. Mais pour les couches tôt, c'est un peu plus difficile. Après, est-ce qu'il va y avoir des difficultés particulières? On a vu qu'il y avait plus d'accidents de la route, mais c'est plutôt lié à la luminosité qu'aux conséquences sur le sommeil. La luminosité baisse une heure plus tôt, et donc il y a un peu plus d'accidents de la route sur les piétons, moins bien éclairés, tandis qu'au passage à l'heure d'été, on va avoir plus d'accidents de la route, mais là, lié à la privation de sommeil, et dès le matin, plus d'infarctus, plus de dépression, mais c'est au passage à l'heure d'été. On n'est pas concerné, soyez rassurés.
Alors je rappelle que ça a été mis en place en 1973 ou 14, à l'occasion du premier choc pétrolier, donc il y a presque 50 ans, donc finalement les gens se sont finalement un petit peu habitués à tout ça. Il y a encore des râleurs, mais si les gens sont habitués, non?
Alors tout à fait, les gens s'y habituent, mais à chaque changement d'heure, ça perturbe ceux qui ont déjà des difficultés de sommeil.
Ouais, en quelques secondes, une bonne nuit de sommeil, c'est combien?
C'est strictement individuel. La moyenne des gens est entre 7 et 8 heures, on va dire.
D'accord, ok. Mais il y en a qui sont en dessous de 10, ça, c'est compliqué, ça peut arriver.
Les longs dormeurs, effectivement, ça peut être difficile.
Très bien. Merci de rester avec nous jusqu'à 13h, docteur Rémi Lombard, pour parler des troubles du sommeil. Et vos questions, vos témoignages, pourquoi pas, au 03 21 38 90 51.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
On parle de votre sommeil aujourd'hui. Ah, le sommeil, c'est la période la plus importante de la vie, j'allais dire. On y passe quoi, au moins le tiers, sinon presque la moitié de notre vie. Pardon.
Ah, oui. Effectivement, nous passons un tiers de notre vie à dormir pour récupérer, avoir de bonnes journées le reste du temps.
Et c'est la base de notre santé, en fait. Si on dort bien, on est bien.
Mangerbouger.fr, il faudrait rajouter mangerbougerdormer.fr.
Bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure du changement d'heure, des effets que ça pouvait avoir sur la qualité de notre sommeil et sur notre santé. Est-ce que ça va arriver demain? Donc, c'est un petit peu rapide, mais est-ce qu'il y a moyen de préparer ce moment, de préparer prévenir ce moment et d'atténuer les effets de ce changement d'heure?
Alors, dans ce sens-ci, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à le préparer. Dans l'autre sens, oui, mais on peut quand même, en anticipant le changement d'heure, en bougeant notre heure de coucher quart d'heure par quart d'heure sur 4 jours avant, ce qui permet d'améliorer.
J'aurais dû vous recevoir lundi alors.
C'est ça, ça aurait été parfait. Ensuite, on va essayer de garder un bon sommeil pour cela et éviter de se l'abîmer artificiellement en ayant des repas trop lourds par exemple, ou en consommant de l'alcool. Éviter tout cela pendant la période, le temps de se réadapter, de se réajuster, garder une activité physique, mais pour le coup, pourquoi pas la faire un tout petit peu plus tard que d'habitude. Les écrans que l'on dit d'éviter dans les 2 heures avant d'aller se coucher, bien cette fois-ci on peut le faire que dans l'heure avant d'aller l'éviter dans l'heure avant d'aller se coucher. Mm-hmm. Comme ça aidera l'horloge biologique à basculer, à prendre une heure de plus. Donc n'hésitez pas pour une fois à utiliser un tout petit peu plus tard.
Dans les écrans, vous comprenez la télé?
Alors non, tablette, téléphone et ordinateur. La D'accord. télé, comme elle est beaucoup plus loin de l'œil, quand la lumière arrive à la rétine, elle est beaucoup plus faible, elle a beaucoup moins d'impact sur l'horloge biologique.
Je vous pose la question parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent la télévision dans leur chambre pour je sais pas, les aider à s'endormir. Vous êtes pour ou contre?
Tant qu'il y aura des télés dans les chambres, j'aurai du travail.
Bon, d'accord, ça veut vraiment tout dire.
À éviter.
À éviter, parce que c'est vrai que, bon, ça, on est scotché. Hein.
Alors, ça retarde l'endormissement chez les gens qui souffrent d'insomnie et chez les gens qui ont un sommeil non réparateur. Quand ils s'endorment avec la télé en fond, les éclats sonores les sortent du sommeil profond et ils dorment, mais d'un sommeil non réparateur.
Bon, alors, est-ce que c'est mieux la télé dans la chambre ou s'endormir dans le canapé devant la télé? Je ne sais pas.
Alors, écoutons-nous, regardons la télé et allons nous coucher lorsqu'on est somnolent.
D'accord. Merci de nous accompagner jusqu'à 13h, docteur Rémi Lombard, pour parler des troubles du sommeil aujourd'hui.
Midi 14h, entre nous sur RDL.
La tendresse pour s'endormir, c'est bien, non?
Vous ne croyez pas si bien dire. On a montré que lorsque les personnes amoureuses dormaient ensemble, elles sécrétaient l'hormone de l'amour, l'ocytocine, et ça facilitait l'endormissement.
Ah bon, d'accord. On parle du sommeil aujourd'hui avec le docteur Rémi Lombard. Quels sont, docteur, on a parlé bien sûr du changement d'heure qui provoque certains troubles chez certaines personnes, mais quels sont, d'une manière générale, les principaux troubles du sommeil qu'on retrouve principalement chez les seniors qui nous écoutent?
On va retrouver 3 grands troubles du sommeil. Le premier va être l'insomnie, qui touche 20 à 30% de la population, avec une période où on déclenche un peu plus pour notre public. Ça va plutôt être la retraite, où on a un décalage des horaires et des rythmes. Un deuxième élément, ça va être le syndrome d'apnée du sommeil. Il va toucher 20% des 45 à 65 ans et 30% des plus de 65 ans. Ça va se traduire par des maux de tête le matin, des sueurs la nuit, de la fatigue, de la somnolence, un ronflement, des levées la nuit pour aller aux toilettes, des réveils fréquents. Et ça.
J'ai l'impression que vous avez passé plusieurs nuits chez moi à m'observer.
Ah. Alors, vous pouvez venir passer une nuit chez moi à la clinique.
D'accord.
On vous observera pour faire un diagnostic éventuellement.
Okay.
Donc, c'est comme ça qu'on en fait le diagnostic d'ailleurs. Oui. Et ensuite, le troisième trouble, ça va être le syndrome des jambes sans repos. Ça touche 8,5% de la population et plus les femmes que les hommes. Ça se traduit par le besoin de bouger les jambes le soir. C'est associé à des sensations désagréables et ça ne survient que au repos. Donc contrairement aux jambes lourdes qui, elles, s'améliorent en surélevant les jambes, eh bien là, il faut se lever, marcher, bouger les jambes pour le soulager. Et pour tous ces éléments, on a des traitements qui sont accessibles. Alors pour l'insomnie, les traitements ne sont pas des médicaments, mais une thérapie.
D'accord, très bien. On aura l'occasion d'en reparler. On a encore un moment à passer ensemble pour évoquer justement la façon de prévenir ou de soigner ces troubles du sommeil, que ce soit à la maison avec un comportement peut-être plus adapté, ou que ce soit, pourquoi pas, en thérapie dans votre unité de soins à Coudekerquebranche. Vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à 13h. On parle des troubles du sommeil avec Rémi Lombard.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Je dis ça, mais je parle sous votre contrôle. Quand on rêve, ça veut dire qu'on fait une bonne nuit de sommeil?
Alors,
on rêve tout le temps, vous me direz.
Normalement, on a des périodes pendant lesquelles on rêve systématiquement dans toutes les nuits, dans chaque cycle de sommeil.
Oui. Mais on s'en souvient pas toujours.
Et c'est pas une pathologie de pas s'en souvenir.
On parlera tout à l'heure de la façon dont vous accueillez vos patients à l'unité du sommeil de la clinique des Flandres à Coudekerquebranche. Je rappelle que vous êtes aussi spécialiste des troubles du sommeil et directeur scientifique pour la thématique des troubles du sommeil à charles.co. On en parlera aussi. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire facilement chez soi aujourd'hui pour faciliter l'endormissement et faciliter une bonne nuit de sommeil?
Alors que l'on soit trop fatigué ou que l'on ait du mal à s'endormir, on va dire qu'il y a 5 grands points à respecter pour avoir un bon sommeil. Le premier, on vient de le voir, notre horloge biologique, lorsqu'elle est perturbée par un changement d'heure, peut entraîner de la fatigue. Donc la première chose, ça va être de garder une heure de lever la plus régulière possible pour garder notre horloge biologique à l'heure. Notre sommeil sert à récupérer. Et donc, du coup, il faut aller se coucher lorsqu'on ressent la somnolence, le besoin d'aller récupérer, on va dire ça comme ça. Les signes de la somnolence, ça va être donc les yeux qui piquent, lorsque l'on lit 4 fois la même phrase sans plus la comprendre, ou les frissons ou les bâillements. Le troisième élément très important, c'est de bien ressentir les signes du sommeil à venir. Et pour cela, d'éviter les excitants de type café, thé, coca qui peuvent rester 8 à 12 heures dans le sang.
Ah oui.
Donc on va dire de les arrêter après 14 heures. On est des animaux diurnes. Notre horloge biologique est régulée par la lumière du soleil. Mais notre œil ne fait pas la différence entre la lumière du soleil et celle d'un ordinateur, d'une tablette et d'un téléphone. Donc ces petits écrans sont à éviter dans les 2 heures avant d'aller se coucher pour faciliter l'endormissement. Et dernier élément, on va dire, le sommeil sert effectivement à récupérer d'une dépense. Pas de dépense, pas de sommeil, remettez vos baskets et allez marcher au moins une demi-heure, 5 fois par semaine. Ce sera vraiment parfait pour le sommeil et pour le moral.
Et pour la ligne, et pour tout, pour le cœur, pour les reins. Pour...
Exactement.
Tous les spécialistes et même les généralistes que je reçois ne le disent. De toute façon, allez marcher tous les jours, ça fait du bien.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Et depuis midi jusqu'à 13h, on accueille le docteur Rémi Lombard, spécialiste du sommeil à l'occasion du changement d'heure. Ce week-end, on va gagner une heure de sommeil en plus et on parle de ces troubles du sommeil qui sont un trouble, mais malgré tout un phénomène important pour la santé. Il y a même des cas plus graves où les gens viennent vous consulter.
Alors oui. Alors j'ai envie de dire simplement, quand vous avez mal au ventre, vous allez voir votre médecin traitant, il vous prescrit les traitements, ça ne passe pas, il vous envoie voir le spécialiste, le gastro-entérologue. Quand vous êtes fatigué, somnolent, que vous ne savez pas dormir, allez voir votre médecin traitant, ça ne passe pas, il vous adressera à un spécialiste du sommeil. Donc moi j'accueille les patients à la clinique de Flandre. Bien souvent, je leur transmets un questionnaire auparavant, ce qui leur permet de prendre conscience de leurs habitudes et l'échange en est que plus intéressant. Ensuite, après cette première consultation, je propose un examen de sommeil si cela s'avère nécessaire et je leur propose aussi de nouvelles habitudes à mettre en place. À l'issue de cet examen, nous nous revoyons et je leur demande comment a évolué leur sommeil après les changements d'habitudes, si tout est rentré dans l'ordre. On se quitte bons amis. Si ça n'a pas été le cas, je leur donne les résultats de l'examen et puis on discute de ce qu'on peut mettre en place ensuite.
Quand vous dites examen de sommeil, c'est là où on passe la nuit chez vous.
Exactement.
Enfin, quand je dis chez vous,
c'est ça.
Dans l'unité.
Pas dans mon lit à moi, non, mais dans le lit de la clinique. Les patients rentrent vers 20h et ils ressortent le lendemain après avoir dormi. Pendant la nuit, on enregistre leur sommeil, on pose des capteurs, c'est parfaitement indolore. C'est pas la meilleure nuit de leur vie vu que ça n'est pas l'hôtel non plus, mais ils dorment correctement. Et on a une quantité astronomique d'informations sur leur sommeil pour les aider et pour les prendre en charge.
Et du coup, la prise en charge n'est pas forcément médicamenteuse, vous me disiez?
Alors effectivement, pour le syndrome des jambes sans repos dont on parlait, ce sera des médicaments. Pour l'apnée du sommeil, ce sera plutôt des dispositifs mécaniques, comme la fameuse machine ou l'orthèse. Tandis que pour l'insomnie, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, ce sera une thérapie cognitivo-comportementale. Et cette fameuse Haute Autorité de Santé dit pas de somnifères au long cours. Donc la thérapie cognitivo-comportementale, si elle est nécessaire pour les patients, soit je la fais avec eux sur 4 semaines, soit s'ils ne peuvent pas se libérer aux heures où je la réalise, je leur propose de la faire sur la plateforme charles.co, où là ça est fait en 6 semaines et les patients téléchargent les thérapies au fur et à mesure des semaines.
D'accord. C'est bien pris en charge par la Sécu, par les mutuelles?
Alors très paradoxalement, comme je vous le disais, les somnifères ne sont pas recommandés au long cours, mais pris en charge par la Sécurité sociale. La thérapie est recommandée par la Haute Autorité de Santé, mais non prise en charge par la Sécurité sociale. Bon. Donc certaines mutuelles les prennent en charge en tout cas.
Deux mots pour se quitter sur charles.co.
Alors charles.co, plateforme qui prend en charge plusieurs troubles, et notamment les troubles du sommeil. Et c'est sur cette plateforme que vous pouvez trouver la thérapie cognitivo-comportementale, enfin, en tout cas une thérapie issue de cette thérapie, qui permet de retrouver le sommeil quand on souffre d'insomnie. En 6 semaines, les résultats au niveau international, c'est 80%. Sur la plateforme, on tourne autour de 85% parce que les gens sont peut-être plus libres de le faire au moment où ils le sont. Et ils ne loupent pas de séance parce que c'est comme ils le souhaitent. Voilà.
Voilà, c'est sur internet, charles avec un s.co pour retrouver le docteur Rémi Lombard. On vous trouve sur Doctolib aussi.
Sur Doctolib pour la consultation et sur Charles pour la thérapie.
Très bien. Merci beaucoup, Rémi.
Merci à vous, Jean-Charles.
Ça a été Jean-Marc.
Jean-Marc, pardon.
Ça a été un un plaisir de vous accueillir. J'allais vous dire bonne nuit. Bon, ben, pourquoi pas. En tout cas, bonne journée. À bientôt.